Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une émission d'hommage que Franck Ferrand nous propose aujourd'hui. Bonjour Franck.
Et oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Alors je vais vous dire comment m'est venue, il y a quelques semaines, l'idée de cette émission. Vous savez que depuis quelques temps, Paris est devenu une sorte de gigantesque embouteillage. Eh bien, j'étais moi-même en taxi dans un de ces encombrements et en parlant avec le chauffeur, j'ai appris que ce monsieur était le doyen des chauffeurs de taxi de Paris. Il m'a raconté toutes sortes d'anecdotes sur les taxis d'hier et d'avant-hier et je me suis dit que ça ferait une superbe émission. Alors monsieur Cède est avec nous aujourd'hui dans ce studio, au côté d'un des responsables syndicaux, enfin anciens responsables que connaissent bien les professionnels, Alain Estival. C'est pour moi l'occasion d'adresser un chaleureux salut à tous les chauffeurs. Je sais qu'ils sont très nombreux, qui nous écoutent régulièrement.
Et pour commencer, vous allez nous raconter un épisode fameux de l'histoire des taxis parisiens.
Et oui, l'épisode héroïque des taxis de la Marne, comment y échapper? Je vous propose de faire un saut d'un siècle dans le temps pour nous retrouver en 1914, dans les tout premiers jours de la Grande Guerre.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
À l'origine de cet épisode absolument extraordinaire de la Première Guerre mondiale, un grand militaire, le gouverneur militaire de la place de Paris, le général Gallieni. Il faut l'imaginer, Gallieni, en cette fin de mois d'août 1914, dans son état-major installé au premier étage du lycée Victor Duruy, boulevard des Invalides. C'est un homme de 65 ans, mais c'est peu dire qu'il en paraît davantage. Il faut dire qu'il est atteint d'un cancer de la prostate déjà bien avancé et qu'il vient de perdre, juste là, en juillet, son épouse Marthe, qui avait été la compagne d'une carrière entière et longue passée essentiellement dans les colonies. Physiquement, c'est donc un homme mince, sec, avec des binocles saillants et puis cette moustache blanche très fournie que connaissait bien le public à l'époque. Gallieni est un homme d'organisation. Il s'est acharné à mettre sur pied la résistance active de la capitale. On peut dire que c'est peut-être aussi sa façon à lui d'oublier la maladie, le deuil. Il s'occupe complètement, c'est très important de protéger Paris au moment du début de cette guerre qu'on imagine intense et extrêmement mobile. Il fait remettre la ligne des fortifications en état opérationnel, hein, toutes ces fortifs qui dataient du règne de Louis-Philippe. Il équipe tout ça d'une ligne téléphonique très efficace. Il fait installer des défenses sur tous les accès de la banlieue, à coups de fossés, de barrières, d'arbres abattus. On peut dire que tout est très beau. C'est un dispositif parfaitement opérationnel, avec quand même un problème, c'est qu'on manque cruellement de troupes. On voit d'ailleurs Gallieni harcelait littéralement l'état-major du général en chef, le général Joffre, pour qu'on lui envoie deux ou trois corps d'armée propres à défendre la capitale. Je précise que d'ores et déjà, le gouvernement a quitté Paris et s'est installé à Bordeaux, donc ça paraît peut-être une priorité un peu moins forte. Les Français sont à l'époque obsédé par l'idée de 1870. On a le souvenir de cet effondrement lors de la guerre franco-prussienne de 70. On veut surtout pas rééditer l'expérience. Or, dès les premiers jours, les Allemands se montrent particulièrement dynamiques. Ils sont entrés en France par la Belgique, on les attendait pas du tout de ce côté-là, et dans une grande manœuvre tournante, ils s'efforcent de refouler les Français vers le Jura et la Suisse, avec l'idée de prendre Paris au passage. Cette stratégie a été peaufinée depuis longtemps, depuis 10 ans. Elle porte un nom, c'est le plan von Schlieffen. Et tout ça inquiète évidemment beaucoup les Français, à commencer par le général Joffre, qui évidemment cherche à contrecarrer ces plans allemands. Autant Gallieni se veut mordant et résistant, offensif si l'on peut dire, autant Joffre se place sur la défensive, soucieux qu'il est d'éviter la débandade, disons-le, quitte pour cela à prendre les devants et à précipiter parfois la retraite devant l'avance ennemie, pourvu que cette retraite s'effectue en bon ordre. L'idée de Joffre, c'est de replier sagement les armées françaises jusqu'à Lyon, de se positionner en face à ce niveau-là, au niveau de Lyon, et d'attendre de pied ferme des troupes ennemies qui seraient fatiguées par une longue avancée. Autant dire que Joffre au passage, ne se soucie pas vraiment de Paris. Alors vous allez me dire, et les Britanniques, parce que là-dedans, les Allemands sont face aux Français et aux Britanniques. Le général French, qui commande le corps expéditionnaire anglais, est sidéré par le parti pris beaucoup trop prudent de l'état-major français, et suivant les recommandations de son propre ministre de la guerre, eh bien il fait effectuer à ses troupes une vaste retraite vers le sud-est, qui ne fait que libérer encore le terrain devant l'avancée allemande. C'est une attitude complètement aberrante d'ailleurs. Alors on aura l'occasion l'année prochaine, à l'occasion de toutes les émissions que nous allons consacrer au centenaire de cette guerre de 14-18, de revenir sur les premières opérations et sur ces tout premiers jours de la guerre. Mais vraiment, on peut dire que les Français et les Anglais ont fait assaut de prudence, si l'on peut dire. Pour se résumer, d'un côté des troupes allemandes qui entrent en masse sur le sol français par la Belgique et qui opèrent donc cette vaste manœuvre tournante, et puis de l'autre, des troupes françaises qui se replient jusqu'aux confins de Lyon et des troupes anglaises qui donnent le sentiment d'ouvrir la route aux Allemands. Dans ces conditions, se profile un grand danger, évidemment, pour la capitale. Paris possède son propre corps d'armée, mais il est, comme je vous l'ai dit, relativement mal défendu. Et c'est à ce moment-là, on est le 3 septembre, vers midi, que des officiers de renseignement annoncent à Gallieni une nouvelle a priori incroyable. Les Allemands paraissent changer d'orientation. D'après les mouvements de troupes qu'on constate, on dirait qu'ils sont en train de renoncer à marcher sur Paris et qu'ils continuent leur marche rapide, leur avancée vers le sud-sud-est. Ça, on peut dire que c'est le clin d'œil du destin. Gallieni n'en croit pas ses oreilles. « Je n'ose y croire », répète-t-il, « non. Je n'ose y croire, ce serait trop beau. »
C'était Peter Tchaïkovski sur Europe 1, un extrait de la symphonie numéro 6 dirigée par Herbert von Karajan. Revenons à l'épisode héroïque des taxis de la Marne avec vous, Franck Ferrand.
Oui, alors vous avez bien compris que contrairement à leur plan préétabli, le fameux plan Schlieffen, les Allemands ont l'air de se désintéresser de la capitale. Mieux que ça, ils exposent maintenant leur flanc droit à une nouvelle attaque depuis Paris. Dans la nuit du 3 au 4 septembre, Gallieni ne parvient pas à fermer l'œil, vous allez me dire c'est pas le moment. Il arpente sa chambre de long en large, si jamais, se dit-il, on pouvait attaquer les Allemands sur leur flanc droit, c'est tout le sort de la guerre qui pourrait basculer. Alors que s'est-il passé quand même du côté allemand? Le général en chef, qui s'appelle von Kluck, vient d'apprendre que l'état-major de von Moltke, qui est installé tout près de l'empereur, du Kaiser, souhaite que Paris soit pris. Ça, ils n'ont pas changé d'avis. Simplement, Paris ne doit pas être pris par la première armée allemande, mais par la deuxième armée dans laquelle se trouvent des princes de la maison impériale. Vous comprenez que c'est pour des raisons de protocole, d'étiquette de cour, en quelque sorte, qu'on a demandé à l'état-major d'arrêter l'avancée et de se mettre en retrait en attendant l'arrivée d'une armée qui pourra donc entrer dans Paris avec tous les princes, les fils du Kaiser, etc. Von Kluck est sidéré, il ne l'entend pas ainsi bien sûr, et puisque rien n'arrête sa progression et que, mieux que cela, les Britanniques se retirent à vue d'œil devant son avancée, eh bien, lui décide de poursuivre sa marche vers le sud. C'est comme ça qu'il va pouvoir franchir la Loire et, suprême habileté, prendre à revers les armées françaises. Il fait, si vous comprenez ce qui se passe en fait, le général von Kluck, qui est sans doute un petit peu trop confiant dans sa brillante expérience des armes, est en train de désobéir à son propre état-major. C'est d'autant plus grave que von Kluck a négligé un aspect, négligé ou volontairement ignoré, c'est que Paris, loin d'être désarmé comme il pourrait l'imaginer, dispose donc de cette armée entière, la 6e armée du général Monoury. Et ça, Gallieni a bien l'intention d'en profiter. Lui aussi va se mettre à désobéir. Contre les ordres du général Joffre, le gouverneur de Paris ordonne à Monoury de se mettre en ordre de marche le 4 septembre, tenez bien cette date, ça c'est la date historique, à 11h, la 6e armée se prépare à quitter la capitale direction plein est, vers le flanc droit de la première armée allemande qui donc s'est dangereusement dégarnie. Ce sont les ordres de von Kluck. Il faut donc attaquer attaquer ce flanc droit avec l'intention de briser le fer de lance germanique, de couper les arrières de von Kluck. À peine moins désobéissant que von Kluck, Gallieni a quand même pris la peine de s'entretenir au téléphone avec Joffre. Conversation houleuse, c'est le moins qu'on puisse dire. À la fin, le gouverneur a explosé. « De toute façon, moi j'attaquerai », a-t-il dit. Insubordination totale. On n'est pas loin du peloton d'exécution là, mais enfin c'est quand même le général Gallieni qui est en cause. Ça n'est pas inutile cette colère, puisque finalement Joffre décide de passer un ordre d'attaque, mais alors vraiment on le lui a extorqué cet ordre. Vous voulez mon avis? Cette conversation téléphonique, ce téléphonage comme on disait à l'époque, c'est la plus grande victoire de Gallieni, c'est là la vraie victoire. Alors, pour me résumer, je dirais que si von Kluck n'avait pas désobéi aux ordres de son propre chef, Paris aurait été pris, et que si Gallieni n'avait pas forcé les ordres de Joffre, eh bien les Allemands auraient pu continuer leur progression. En 1914, on peut dire que c'est cette double désobéissance qui a, en quelque sorte, sauvé la France. Alors, très vite, la 6e armée de Monoury, jouant la surprise, va marquer des points. Seulement, von Kluck ne tarde pas à réaliser son erreur. Et très vite, bien entendu, il rapatrie des troupes. Et là, il va falloir venir en soutien de la 6e armée. La seule chance de s'en sortir, c'est d'acheminer très vite, mais alors très vite vers la Marne, les troupes de la 7e division de la 4e armée, qui est basée en Lorraine, côté France, et que Joffre avait envoyé en train vers Paris pour faire patienter Gallieni. Je vous avais dit qu'il était littéralement harcelé. Pas question d'envoyer ses troupes à pied vers le front. Les soldats sont d'abord beaucoup trop fatigués, puis ça prendrait trop de temps. Il faut trouver un moyen de les acheminer en véhicule. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a le train. Il faut savoir quand même que depuis les alarmes du 3 septembre, Gallieni avait confié au général Laude le soin de réquisitionner tous les véhicules automobiles. Or, faut pas oublier qu'on est en 1914, qu'il n'y en a pas tellement que ça, des véhicules automobiles. Alors bien sûr, il y a 150 taxis appartenant à trois compagnies, dont la générale des voitures du comte Walewski, le petit-fils naturel de Napoléon. Je raconte ça pour l'anecdote. Deux officiers de réserve, Le Fa et La Chambre, qui sont tous deux députés d'Ille-et-Vilaine, ont été chargés de superviser cette espèce d'opération de réquisition. Les taxis en question ont été basés à Levallois. On en a 150 pour l'instant. Les 4 et 5 septembre, des taxis ont été utilisés pour livrer des vivres aux troupes françaises stationnées hors de Paris. C'est simplement ça, un préambule à ce qui va se passer. En effet, le 6 septembre à 20h, le général Gallieni, nous y voilà, il déclare devant son état-major: il faut transporter d'urgence la 7e division sur le front. Alors on lui explique que les réserves émises par les responsables des chemins de fer, on lui explique que 250 véhicules militaires seulement sont pourvus de chauffeurs aptes à conduire des véhicules automobiles, les autres sont déjà sur le front. Et les taxis? Demande Gallieni. Oh, ça ne résoudra pas la question des conducteurs. Et comment que ça les résoudra? Parce que lorsque je parle des taxis, je parle du véhicule et du chauffeur, dit Gallieni. Les officiers se regardent, on sourit. Ah, ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même une idée très audacieuse, pour ne pas dire un peu folle. C'est une idée très audacieuse, mais ça pourrait bien être une idée géniale.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, sur l'épisode héroïque des taxis de la Marne.
Eh oui, alors ces taxis de la Marne, évidemment, c'est l'idée géniale du général Gallieni, transporter jusqu'au front des troupes épuisées de la 7e division, les transporter en taxi. Reste à réquisitionner les taxis parisiens. La préfecture de police est mobilisée et dès 22h, on peut voir des agents de la paix se lancer dans la plus incroyable des courses au taxi. Heptaxi, c'est le cas de dire, on en réquisitionne comme on peut. On arrête tous ceux qu'on peut voir avec ordre immédiat de se rendre sur l'esplanade des Invalides et de se conformer aux ordres qu'on leur donnera une fois sur place. Sur les 10 000 taxis de Paris à l'époque, il n'en reste que 3 000 seulement à l'époque, du fait de la mobilisation, parce que la plupart des chauffeurs, ils sont partis au front tout simplement. Ce sont évidemment pour la plupart des chauffeurs trop âgés pour avoir été mobilisés. Autant dire que la plupart sont d'anciens cochers de fiacre. Ça nous amène à ce que nous allons raconter dans un instant avec mes invités. Il est peut-être utile que je vous brosse quand même le portrait d'un taxi parisien de cette époque. Presque invariablement, la voiture est une petite Renault qu'on appelle la deux pattes, parce qu'elle a deux cylindres. C'est une voiture très haute, avec un moteur en revanche assez bas, conduite extérieure bien sûr, on est en 1914 à l'époque, et puis capote de cuir au-dessus des clients. des passagers. Sur l'esplanade, vous imaginez l'impressionnant ballet de voitures automobiles. Il faut toute une logistique. Alors on a mobilisé tous les officiers, sous-officiers qu'on peut pour ranger les voitures, ranger ceux qui venaient, les pousser à leur tour, aurait dit Corneille. Vers 23h, le premier convoi se met en branle, avec la chambre en tête et le face en queue, hein, sont les deux députés dont je vous parlais. Et l'itinéraire, bien sûr, alors on passe par le pont Alexandre III, les Champs-Élysées, rue Royale, la rue Lafayette, et puis Jean Jaurès, la porte de la Villette, le Bourget. Un défilé impressionnant, mais que très peu de gens verront, puisqu'on est là en pleine nuit. Et qu'en plus, c'est le couvre-feu, bien entendu. Il fait frais, hein, très, très frais. Ça bougonne, hein, disons, les chauffeurs de taxi. Certains ont compris l'enjeu, mais la plupart ne comprennent pas trop ce qu'on leur demande. Et ça, on peut pas dire que ce soit l'enthousiasme, ce premier convoi. À 2h du matin, ce premier convoi, donc 250 voitures, parvient à Tremblay-les-Gonesse. Alors, vous imaginez les embouteillages. On n'a jamais vu tant de voitures sur un même itinéraire. À 3h du matin, un nouveau contingent de 350 voitures, c'est-à-dire les 100 qu'on avait postés à Levallois, plus 250 véhicules militaires. En tout, ça fait 600 voitures. Dans le petit matin, il faut imaginer l'aube naissante, toute cette espèce de chenille, littéralement, hein, qui remonte vers le nord-est, avec tout ce qu'on peut imaginer en termes de panne d'accrochage. En 1914, les voitures sont un tout petit peu moins fiables qu'elles ont pu le devenir par la suite. Vers 7h, les premières arrivent à l'entrée de Dammartin en Goële. On entend bientôt le grondement du canon. Là-bas, ça y est, c'est le front. Il faut imaginer la faim, la fatigue, les troupes épuisées, bien entendu. Le général Laude arrive quand même avec son ravitaillement, notamment de l'essence, des pneus, toute une escouade de mécaniciens. Et enfin, sur les coups de 9h, parvient l'ordre de se porter vers Sevran-Livry et d'y prendre en charge une division d'infanterie. Cette fois, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Dites-vous qu'en tout, ce sont quelques 1000 taxis qui seront enrôlés dans l'opération d'urgence imaginée par Gallieni, parce qu'on en était resté au chiffre de 600. Les 600, c'est ceux qui sont partis donc de Dammartin, mais il y en a 500 autres, car la réquisition va continuer. Dans la matinée du 7 septembre, on récupère encore 500 voitures qui vont suivre le même itinéraire, et alors là, cette fois, c'est en plein jour. Donc la foule est au courant, la nouvelle s'est répandue, les gens sont descendus au bord des routes et crient « Vive les taxis !» Il y a une espèce d'enthousiasme collectif qui est à l'origine de ce mythe des taxis de la Marne. Hein. C'est une force d'appoint extraordinaire qui va être transportée. Alors, attention, force d'appoint, c'est 4000 hommes en fait. Mais ce sont les 4000 hommes qui vont faire la différence. C'est stratégique et puis surtout, je vous le dis encore une fois, c'est un symbole de résistance. Ça nous ramène très loin, ça, dans l'histoire. Rappelez-vous l'affaire, l'histoire plus ou moins légendaire, mais peu importe, l'histoire de Sainte-Geneviève et d'Attila. Hein, on est un peu dans le même genre de symbole qui marque les esprits. Alors, ces 500 nouveaux taxis vont rejoindre les 600 autres du côté de Gagny. Les 600 premiers emportaient des hommes du 104e régiment d'infanterie. Les nouveaux en emportent du 103e régiment d'infanterie. Ils reçoivent d'ailleurs la visite de Gallieni en personne. On a pris des photos. Ensuite, on en a fait des grands tableaux, dont un est aux Invalides, vous savez, bon. Nouvel embouteillage, on a pris la direction de Nanteuil cette fois, à 2 km du point d'arrivée. On est obligé carrément de faire descendre les hommes et ils finissent à pied. Tout ça va continuer quand même jusqu'au matin du 8 septembre. Et la contre-attaque menée par Monoury et qui va marquer le coup d'arrêt de l'avancée allemande, elle a lieu justement à ce moment-là. Elle a lieu le 8 septembre. Alors, il faut dire aussi que certains taxis vont faire la double course. C'est-à-dire qu'ils vont retourner à Gagny, chercher des hommes et repartir. Je dis double course parce qu'évidemment ils sont payés. Alors, ils ne sont pas tellement cher payés pour le service rendu. On les dédommage à hauteur de 27% de la somme indiquée au compteur, tout simplement. Voilà comment ça s'est passé. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça, ce sont les solutions géniales. Ceux qui ne sont pas envoyés à Gagny peuvent rentrer chez eux, mais on peut dire que maintenant ils le font à regret. Certains sont partis en bougonnant, mais maintenant ils seraient bien prêts à faire une deuxième, voire une troisième course. Ils ont compris l'importance. Ils sont fiers finalement, ces chauffeurs de taxi, d'avoir joué ce rôle décisif dans ce qui s'avère un véritable retournement de situation, puisque c'est bien un coup d'arrêt porté à l'avancée allemande. Monoury a réussi son opération. Alors la suite, on la connaît, la stabilisation du front, l'installation de ses tranchées et puis cette guerre de position qui n'en finira plus de finir. Mais enfin ça nous entraînerait dans une toute autre histoire. Disons bien que Gallieni a réussi son coup. Son idée de mobiliser les taxis parisiens restera comme un symbole de la mobilisation du peuple français en 1914. On peut dire qu'elle symbolise à la fois les premiers pas vers une guerre totale et le premier sursaut national contre l'invasion allemande. Il y en aura bien d'autres de ces sursauts. Et puis j'aimerais m'arrêter sur une idée importante, qui est l'irruption du monde moderne dans ce qui était jusque-là encore la guerre du XIXe siècle. La légèreté, la vitesse, la souplesse d'emploi de l'automobile vont faire merveille, bien entendu. Alors, la prochaine fois que vous passerez sur l'esplanade des Invalides, imaginez-la couverte de deux pattes Renault, réunies pour s'en aller sauver la France. Et si vous avez un petit peu de temps, entrez dans l'enceinte des Invalides, où se trouve le musée de l'armée. Vous tomberez sur une voiture qui est un de ces tacos haut sur pattes. Eh bien, dites-vous que cette voiture, qui a été reconstituée à partir de deux autres voitures, mais peu importe, cette voiture, elle était bien de la fête, si je puis dire. Elle était là, le 4 septembre 1914. Bonjour Billy Said.
Bonjour Monsieur Franchet.
Chose promise, chose due, nous parlions de ça dans votre voiture il y a quelques semaines. Eh bien, vous voilà pour nous parler de l'évolution des taxis depuis combien d'années est-ce que vous...
Eh bien, exactement 55 ans.
55 ans
que j'ai commencé le 27 mai 1958. Et je suis toujours en activité.
Eh bien, c'est magnifique. Et vous êtes là, bien sûr, avec Alain Estival, qui lui-même est ancien chauffeur de taxi, ancien président de la CSAT et de la FNAT. Vous allez nous parler de l'histoire des taxis. Et si vous voulez bien, nous allons remonter assez haut dans le temps, puisque les ancêtres des chauffeurs de taxi, ce sont les cochers de fiacre. Nous venons au fiacre dans un instant.
Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des taxis. On en parle avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Alain Estival, ancien chauffeur de taxi, ancien président de la CSAT, la Chambre syndicale des taxis, et auteur de Taxi, un métier inconnu, l'histoire des fiacres et des taxis, préfacé par Bertrand Delanoë aux éditions Jet d'encre, et Billy Said, doyen des taxis de Paris.
Et oui, Billy Said qui m'a donné l'idée de faire cette émission. Alors, vous écoutez l'émission souvent dans votre voiture. Oui, je sais qu'un très grand nombre de vos confrères en font autant. Est-ce qu'on parle encore des taxis de la Marne aujourd'hui?
Plus tellement, non. Non. Maintenant, c'est...
C'est vieux, disons, ça fait 100 ans.
Avec la nouvelle génération de jeunes chauffeurs, je pense que même beaucoup ne savent pas l'histoire, ne connaissent pas l'histoire.
Mais oui, alors Magali, c'est pour ça que nous sommes là, pour leur rafraîchir la mémoire, ouais. Vous voyez. Magali nous demande, qui est bretonne, nous demande via Facebook combien de kilomètres les taxis avaient parcouru à cette époque, Alain Estival, pour regagner le front. Ça représentait quoi à peu près?
Une trentaine de kilomètres, mais comme vous l'avez dit, ils ont fait plusieurs allers-retours. Mais parce qu'ils ont ramené des blessés, ils ont ramené des munitions, et puis le patriotisme ayant pris, il y en a qui ont décidé de rester sur place et sont restés à disposition de l'armée jusqu'au 12 septembre.
Alors j'étais ravi d'apprendre qu'il y avait un livre sur l'histoire des taxis, le vôtre, ça s'appelle donc Taxi, un métier inconnu, et encore plus ravi de voir que vous avez commencé vraiment aux origines, c'est-à-dire avec les fiacres, et même ce que vous nous dites, c'est que des taxis, il en existait dès l'Antiquité, ou en tout cas dès Byzance.
Oui, il y avait des chars en attente de clientèle, c'est le titre exact d'un taxi, véhicule en attente de clientèle sur la voie publique.
Donc ça n'a pas changé de ce point de vue.
Ça n'a pas changé.
Il y avait déjà du transport.
Du transport, des clients mécontents peut-être.
Oui.
Et en tout cas,
dans les embouteillages de Byzance, on imagine.
Il y a un système qui m'a surpris, c'est le fait d'avoir des bouliers qui étaient reliés aux essieux et les gens payaient à la boule.
Ah oui, donc il y avait un compteur.
Il y avait un compteur.
C'est l'ancêtre du taxomètre.
Oui. Alors, vous avez connu le taxomètre?
Oui, enfin, on l'appelait, bien sûr, avec le compteur extérieur.
Extérieur, c'est ça.
À droite puis à gauche.
Et toujours la grande discussion des chauffeurs de taxi, c'était que quand il pleuvait, quand il y avait des orages, quand on avait un client, il fallait naturellement dépasser le bras de la portière pour mettre le compteur, donc on se mouillait l'avant-bras.
Certains avaient même une protection sur la manche, hein, précisément pour cette raison.
Peut-être les anciens, oui.
Les très anciens, je parle là, on est dans les années 20.
Les chauffeurs, d'ailleurs, quand j'ai commencé, les chauffeurs de taxi, dont beaucoup de Russes, étaient presque tous habillés avec une blouse grise, avec une casquette décaillée. Et quand je suis arrivé, j'ai toujours l'habitude d'être en costume et j'étais un peu regardé comme un peu bizarre d'un jeune chauffeur de taxi habillé en costume, cravaté, et ça faisait un peu...
Alors pendant...
Oui, c'est un peu différent des
peu
vieux chauffeurs,
oui.
Parce que je dois ajouter que si je suis maintenant le plus ancien, On m'avait dit qu'à l'époque, j'étais le plus jeune, puisque j'ai commencé à peine à 24 ans.
Ça, c'est le secret de la longévité.
Voilà.
Commencer le plus jeune pour finir le plus ancien. Alors, c'est au XVIIe siècle qu'on va voir... Il y avait déjà des voitures de remise ou de louage qui existaient. Oui. Il faut dire que les voitures, les carrosses eux-mêmes, ils ne naissent que dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et encore, n'en bénéficient que quelques très hautes personnalités, des rois, des princes, simplement. Peu à peu, ça va se démocratiser un petit peu. Et puis... Au début du XVIIe siècle, alors on voit des voitures de plus en plus, et presque dès le début, on a des cochers qui vont se faire un métier d'emmener les gens.
Tout à fait, on a une décision de Colbert en 1657 qui remet à la concession des fiacres de la ville de Paris un certain monsieur de Givry, et c'est aussi la première réglementation des fiacres dans lequel on retrouve quelquefois les éléments de la réglementation actuelle. Le fait d'avoir des numéros sur le véhicule, le fait de pouvoir refuser si on va au-delà de Paris, au-delà de 5 lieues, ne pas avoir de condamnation, ça existe toujours, c'est toujours dans la réglementation. Conduire comme un bon père de famille et avoir une attitude corail vis-à-vis de la clientèle, j'aimerais bien que tous les taxis relisent cet article.
Nous croisons les doigts.
Nous croisons les doigts. Et puis, il y a une chose que j'ai eu l'honneur de supprimer, parce que quand même, c'était l'abandon de véhicule. Les fiacres ne devaient pas quitter leur fiacre, ils devaient rester à proximité.
Les cochers restaient dans les fiacres.
Et alors, de règlement en règlement, nous les avons subis, nous les taxis, et en 1998, quand j'ai pris la présidence, j'ai dit au préfet, ça serait bien qu'on supprime ça. Parce
ça datait du XVIIe siècle.
Du XVIIe siècle, et que les chauffeurs de taxi sont amenés à descendre dans le véhicule pour aider les clients.
Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'au milieu du XVIIIe siècle, les deux grandes questions pour les fiacres, déjà à l'époque, ce sont les encombrements, évidemment, ça n'a
toujours
pas changé,
oui.
Et puis la rapidité des véhicules. Et alors, on va inventer ces espèces de fiacres à deux roues, extrêmement dangereux, et on sait la phrase célèbre de Louis XV qui disait « Si j'étais monsieur de Sartine, j'interdirais ces véhicules ». Il ne faut pas oublier qu'il était quand même le roi de France, lui, mais il estimait que ça n'était pas son rôle. Donc il disait, si j'étais le ministre de la police, j'interdirais ces véhicules. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'accidents.
Il y avait beaucoup d'accidents, et puis il y avait une discipline qui s'était un peu relâchée, ce qui fait qu'un certain nombre de cochers étaient liés avec la pègre, ou étaient victimes de la pègre. Et c'est ce qui a valu à Louis XVI de prendre des décisions qui ont créé la première grève connu en 1779, où les fiacres ont bloqué le roi à son pavillon de chasse, a choisi le roi.
Incroyable. Et première grève de taxi, 1779, retenez la date.
Et parce qu'il a voulu doubler le nombre de fiacres, et ça n'est pas passé. Et en réalité, on ne les a pas augmentés, on les a même réduits, mais on a donné à un autre monsieur la concession, qui lui, d'une main de fer, a remis les choses en ordre.
Alors, on va avancer évidemment dans l'histoire, parce que je voudrais qu'on en vienne à la grande époque qu'a très bien connue Billy Said à travers donc toute sa longue carrière. Mais pour en finir avec les fiacres, ce qu'il faut dire, c'est que les grandes réglementations, après la période révolutionnaire qui remet les règlements à plat en grande partie, comme toujours, eh bien, comme toujours, on dit ça dans quasiment toutes les émissions dès qu'on parle d'un sujet, c'est Bonaparte, une fois de plus, qui va remettre les choses à plat et qui va créer les règles, en fait.
Tout à fait, qui va remettre d'abord la discipline avec le préfet de police, puisque c'est le préfet Dubois qui va avoir la compétence des taxis, des fiacres, je m'excuse. Et puis, on va faire de la réglementation un élément important, avec, au moment de la restauration, un petit peu de lien avec la police. On a servi d'indicateur, et c'est resté très longtemps. On en parle quelquefois encore, en disant, vous êtes des indicateurs de la police, ce qui n'est pas vrai, mais du temps de la restauration, ça a été vrai.
Ouais. Il y avait toutes sortes de réglementations.
Mais le taxi en général vit avec l'évolution de la société. Et je prendrai un exemple qui m'a beaucoup amusé quand j'ai écrit ce livre. Vers 1830 a disparu la coutume ou la règle, je ne sais pas, où les femmes pouvaient quitter leur mari, sortir dans la rue sans leur mari, alors qu'avant, pendant la première année, elles devaient être avec leur mari. Et bien ça a aidé les taxis, parce que les fiacres, vous voyez, parce que les femmes n'ayant pas de véhicule, ils ont pris les fiacres, et ça a donné une forte économie.
Alors il y a un nom que j'ai cité tout à l'heure en parlant des taxis de la Marne, c'est celui du prince Walewski qui était le fils de l'enfant naturel, naturel qu'avait eu Napoléon avec Maria Walewska, et qui était donc se trouvait être le cousin par la main gauche de Napoléon III. Et c'est lui qui était le patron des fiacres à Paris sous le Second Empire.
Oui, c'est-à-dire que Napoléon III lui a donné la concession des fiacres impériaux.
Et il l'a conservé, ce qui est assez rare.
Il l'a conservé, puis ensuite il s'en est désintéressé. Napoléon III l'a exproprié, moyennant finance, et il s'est retrouvé dans le conseil d'administration de la nouvelle société.
Alors, ce qui est très étonnant, c'est le passage des fiacres à cheval qui vont atteindre une sorte d'apogée à la fin du 19e siècle, les années 1895-1900. Il y a des fiacres partout dans Paris, on circule essentiellement comme ça. Et puis petit à petit, on voit arriver la concurrence automobile.
Les fiacres croyaient qu'ils resteraient l'éternité. Ben non, ils ont été rattrapé par les taxis. Alors, ce qui est surprenant dans cette histoire, d'abord, bien sûr, il y a eu des bagarres, un coup de couteau et un coup de manivelle pour les chauffeurs de taxi, c'est qu'on a commencé le taxi avec un véhicule électrique, ce qui n'a pas duré longtemps, 3 mois. Et ensuite, on a pris les véhicules à essence. Effectivement, les fiacres ont vu leur mort à ce moment-là.
Ah oui, bien sûr, parce que là, évidemment, on pouvait plus lutter.
On pouvait plus lutter parce que la vitesse, parce que le confort, parce que la modernité, parce que la propreté aussi.
Oui, puis, il y avait l'attrait de la nouveauté aussi, tout simplement. On montait dans des automobiles. Pour un très grand nombre de nos ancêtres, le premier moyen de faire un tour en automobile, c'était tout simplement de prendre le taxi.
Je prends les gens qui rient, qui pleurent, qui défilent dans rétroviseur, les travelots qui perdent leur bar, les messieurs qui s'en vont au bois, les noirs qui se marrent, les femmes qui se barrent, les gars qui boivent dans tous les bars. Je les surveille du coin de l'œil pour pas qu'ils gerbent sur mes fauteuils.
On écoutait Guy Marchand sur Europe 1 avec un extrait de Taxi de nuit. On parle de l'histoire des taxis cet après-midi sur Europe 1 avec Franck Ferrand et ses invités. Alain Estival, ancien chauffeur de taxi, ancien président de la FNAT, Fédération Nationale des Artisans du Taxi, et Billy Said, doyen des taxis de Paris.
Et Alain Estival est l'auteur de Taxi, un métier inconnu, histoire des fiacres et des taxis. D'où vient ce mot taxi? Parce qu'on aurait pu appeler ça des autofiacres en quelque sorte, Billy Said.
Oui. Alors, pour que le client puisse payer uniquement la course qu'il fait, on a créé un taxe-mètre. Et d'où ce mot taxe-mètre, c'est devenu
taxi.
Un peu taxi. Voilà.
Et ça s'est ensuite répandu dans le monde entier. Parce que ce qui est fabuleux, c'est que où que vous alliez sur la planète, un taxi s'appelle un taxi. Hein, ça, c'est assez pratique.
Oui, voilà. Et d'ailleurs, je crois que ce fameux taxe-mètre, le premier a été fabriqué par les Allemands.
Les Allemands fabriquent souvent des compteurs.
Et justement, ce qui est curieux, c'est qu'ils ont pris un mot français pour parler de taxes et de maîtres, c'est-à-dire la taxe qu'on paye pour faire...
Il faut dire que Paris, à l'époque, est une des grandes métropoles, avec Londres, ce sont les deux grandes métropoles mondiales. Évidemment, tout ça a tellement changé. On parlait de la grande grève de 1779, ça c'était la grève des cochers de fiacres. Il y a une grève des chauffeurs de taxi au moins aussi célèbre, c'est celle de 1911 à l'Instival.
Aussi célèbre, peut-être pas pour tout le monde, mais moi, elle est dans l'histoire des taxis. 1911, on est en pleine insurrection européenne, parce que dans toute l'Europe, il y a des grèves. Et c'est à ce moment-là que se déclenche la grève des taxis qui dura 144 jours.
Ouais, c'est pas
et pas sur un problème de nombre, mais sur un problème de part de la course. À l'époque, les 80% des taxis sont des taxis salariés. Et ils se plaignent, qu'ils ne sont pas assez payés, et deux, il y a eu une augmentation, une taxe sur l'essence. Ils veulent être détaxés.
Finalement, les décennies se suivent et les problèmes se ressemblent, si je puis dire.
Les problèmes se ressemblent, sauf que là, évidemment, la CGT va perdre, puisqu'ils vont faire la grève 144 jours pour rien obtenir. Les artisans, enfin, ce que nous appelons les artisans, vont se mêler avec les salariés, et c'est de cette date-là que a parcouru l'esprit des taxis en disant je ne veux plus être, avoir de patron, je veux devenir artisan. Et aujourd'hui, les artisans sont ultra majoritaires.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu une loi terrible en 1930 qui va totalement libéraliser, ce qui fait que tout le monde peut se mettre à conduire des taxis.
Oui.
Et puis, c'est le Front Populaire qui, lui, réorganise un peu les choses.
Mais oui, parce que j'ai entendu, lorsque j'étais président, des adversaires des taxis qui me disaient « En 1930, vous étiez 25 000 ». Ce qu'ils n'ont pas, ils ont oublié de dire, c'est qu'en 3 ans, ils sont passés de 25 000 à 8 000.
Et oui, voilà.
Parce que les gens ont arrêté, les autres se sont suicidés, il y a eu des bagarres.
On ne peut pas parler de cette période et parler des chauffeurs de taxi sans évoquer, évidemment, les Russes blancs, hein, qui avaient été chassés de Russie par la révolution communiste et qui se retrouvaient, on avait eu des grands-ducs, enfin des gens très très importants qui, du jour au lendemain, se retrouvaient chauffeurs de taxi à Paris. Vous en avez connu, vous, d'ailleurs, Mélissa?
Et moi, j'en ai connu. Oui. Parce qu'en 1958, il y avait encore dans les compagnies beaucoup de choses. Et ils n'étaient pas tellement artisans, ils étaient chauffeurs.
Oui.
Et alors, en parlant avec eux, bien sûr, ils m'ont expliqué. Alors c'était naturellement soit des généraux, des colonels, des princes. Et ils avaient déjà des véhicules dans leur pays, en Russie, parce que c'était des gens fortunés. Et donc
ils avaient conduire.
Et voilà. Ouais. Et quand ils sont arrivés en 1921-22, sans rien, bah, bien sûr, la seule chose qui était le plus facile, c'était de conduire un taxi.
Et ils parlaient plusieurs langues.
Et voilà.
Et alors, comme chez eux, en Russie, fallait dire, enfin, comme dans toutes les cours du monde, on parlait le français.
Eh oui.
Ils parlaient déjà parfaitement le français.
Et l'anglais, etc. Donc
alors moi, j'en ai connu jusqu'aux années 1960, où il y a eu un grand changement à la G7 surtout, où ils ont changé leur véhicule Renault, ces gros véhicules qu'on voit encore dans des films anciens, pour des Dinapans. Et alors, ils ont tous été en disant, moi, jamais je pourrais conduire une voiture comme ça, jamais.
Et parce que les taxis étaient de la même marque, en fait, c'est ça?
C'est-à-dire, il y avait cette grande compagnie qui avait de ses Renault.
C'est
Renault. Et
quand on va à Londres, par exemple, on reconnaît tout de suite au premier coup d'œil les voitures des taxis, mais ils ont tous la même forme.
À l'époque aussi, d'ailleurs avant la guerre, les taxis avaient été souvent bicolores, c'est-à-dire deux couleurs. Ça a été abandonné un peu après la guerre, mais les taxis de la G7 ont toujours gardé leur couleur noire et rouge. Et aussi d'autres compagnies, il y avait la G2 Métropole, et puis enfin voilà.
Vous avez constaté, vous, alors en dehors de l'évolution des véhicules eux-mêmes, un changement dans la pratique du métier. Quand je vous demandais l'autre jour, parce qu'on était coincés tous les deux dans un embouteillage, et je vous ai dit, mais quand même, il y a 55 ans, quand vous avez commencé, il devait y avoir moins d'embouteillages. Vous m'avez dit, pas toujours, parce qu'il y en avait quand même des embouteillages.
C'est-à-dire, il faut dire qu'à l'époque, Paris était beaucoup plus rétréci. Les grands boulevards, par exemple, les trottoirs étaient plus larges que la chaussée, puisque c'était un grand lieu de promenade, comme beaucoup de ces avenues. Et fur et à mesure que, naturellement, le nombre de voitures augmentait, on a voulu élargir les chaussées, justement, pour faciliter la circulation. Chose que maintenant, malheureusement, on revient en arrière
on rétrécit
pour créer des encombrements. Mais à l'époque, tout était fait un peu pour la voiture, de façon à faciliter le flux des voitures.
Alors, on parlait de ces grandes compagnies, on va peut-être pas faire de la publicité au micro, mais ça existe toujours, bien sûr, ces grandes majors.
Moins, la G7 doit avoir 700 licences sur les 16 000 ou 17 000, donc ça ne présente pas grand-chose. On confond les radios et
les réseaux, en fait.
Oui, et le fait d'être titulaire d'une autorisation administrative, ce sont les artisans qui sont ultra-majoritaires. À Paris, artisans ou travailleurs indépendants, je vais parler, ou petits propriétaires, comme disait la CGT.
Ils sont propriétaires de leur licence.
Propriétaires de leur licence, et la voiture qui est liée à la licence. Mm-hmm. Et en province, c'est plus que 90%. C'est 97, 98%.
D'ailleurs, parce que nous avons aussi beaucoup de nos auditeurs qui conduisent des taxis en province, dans les régions, comme on dit maintenant, il faut bien insister sur cette différence. Les taxis parisiens ont beaucoup de spécificités que n'ont pas les taxis de province.
On a un règlement plus strict, c'est sûr. Et puis, ils ont commencé après la Seconde Guerre mondiale. Et on peut dire que les taxis en province, je ne parle pas de ceux qui sont dans les grandes métropoles, mais ceux qui sont en milieu rural, essentiellement, c'est du transport de malades assis, remboursé par la sécurité sociale. Oui.
Et puis, il y a des fidélités. Pour citer mon simple exemple, moi, quand je vais en Normandie, j'ai presque toujours le même chauffeur de taxi, que je salue d'ailleurs. On est habitué à son chauffeur, etc. C'est pas tout à fait la même chose qu'à Paris, où on est dans un passage, vous voyez vraiment toutes sortes de gens, Willicède.
Hein, ah, oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, c'est ce que, pour moi, c'est pour ça que je suis resté, et je reste encore dans ce métier, parce que dès le départ, j'ai vu que je ferais pas fortune, et que je devrais travailler 11 heures par jour, 10 à 11 heures. Donc, mais après, une fois qu'on sait cela, eh bien, c'est un métier formidable, parce que toujours être avec des gens de toutes conditions.
Et qui changent constamment.
Et puis alors, chaque client, c'est une personne différente, une conversation différente, et puis un enrichissement.
On rit et on pleure dans le
Eh oui, bien sûr. Et on partage ses rires et ses pleurs. On ne peut vous souhaiter qu'une chose, c'est de continuer à le faire longtemps encore,
Métier. Je passe des visites médicales tous les ans.
Ah oui.
Et tant que je serai valide, je pense.
Comme on dit, vous êtes bon pied, bon œil. Et puis, merci Alain Estival.
C'est peut-être grâce au métier de chauffeur de taxi.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Taxi, un métier inconnu, histoire des fiacres et des taxis, avec une préface du maire de Paris. C'est aux éditions Jet d'encre. Merci beaucoup à tous les deux.
Dans une minute sur Europe 1, on retrouve Franck Ferrand qui, pour cette semaine spéciale Prix Historia, recevra les présidentes du jury du Prix Historia de l'exposition et du livre jeunesse. Et on retrouve Franck Ferrand pour cette semaine spéciale Prix Historia. Vous recevez aujourd'hui Franck Elisabeth Couturier, journaliste et critique d'art, présidente du jury du Prix Historia de l'exposition, et Véronique Dumas, journaliste responsable du site internet du magazine Historia, présidente du jury du Prix Historia du livre jeunesse.
Et j'ai entre les mains le numéro de novembre d'Historia, avec une couverture sur le Troisième Reich, une photo d'ailleurs extrêmement frappante, et ce sous-titre « Comment on embrigade un peuple ?» Et à l'intérieur de ce numéro, vous avez tout un cahier consacré aux différents prix Historia. Alors, nous allons parler de livres jeunesse, évidemment, ça c'est très important parce qu'il faut donner le goût de l'histoire aux enfants, et d'expositions. Alors, Dieu sait que des expositions, nous n'avons plus que l'embarras du choix depuis quelques années. Hein. C'est un genre qui a littéralement explosé. On peut dire qu'il y en a de plus en plus, Elisabeth Couturier.
Oui, tout à fait. Et de plus en plus, ça devient très difficile de départager la meilleure exposition de l'année à tendance historique, qui parle de l'histoire, qui renvoie à l'histoire, et à tel point que cette année, nous avons donné le prix à deux expositions très différentes.
Il y a deux vainqueurs ex aequo, en quelque sorte. Hein.
Deux vainqueurs ex aequo, et justement, qui parlent de, grosso modo, de résistance par rapport à la guerre. Deux périodes de conflits importants, puisque nous avons couronné l'art en guerre France 1938-1947 de Picasso et Dubuffet, qui s'est tenu au Musée d'art moderne de la ville de Paris le 12 octobre 2012 au 17 février 2013.
C'est d'ailleurs intéressant de voir que les commissaires de cette exposition ont choisi une période assez longue, une décennie entière, de l'avant-guerre à l'après-guerre, de 38 à 47, avec évidemment la grande question, nous avions consacré une émission à cette expo, la grande question du rôle des artistes plasticiens pendant l'occupation.
Comment résister, comment continuer à faire de l'art et comment continuer à expérimenter surtout des formes, quand on sait que l'exposition sur l'art dégénéré a eu lieu en 1937 à Munich.
Et puis l'autre expo lauréat, c'est la valise mexicaine Capataro-Chim, sont les négatifs retrouvés de la guerre d'Espagne.
C'est une histoire rocambolesque. Ces négatifs ont été retrouvés en 2011, après 40 ans de disparition. Et on a retrouvé ces photos, enfin ces négatifs, réalisés par trois grands reporters de guerre, les premiers reporters de guerre. Capa, bien sûr, Taro, la femme de Capa, et Chim, qui est un pseudonyme. Trois reporters juifs, trois reporters engagés qui sont allés au plus près du conflit.
Alors, on est totalement dans la lignée, si je puis dire, Véronique Dumas, puisque l'ouvrage que vous avez primé, l'ouvrage Jeunesse, est tout à fait un ouvrage de résistance également. Hein. Ça s'appelle « Non à la lâcheté » de Jean-Claude Mourleva. C'est aux éditions Actes Sud Junior.
Exactement, dans la collection « Ceux qui ont dit non ». qui est donc consacré à des personnages qui se sont distingués par leur esprit de résistance, ce qui est évidemment le cas de Sophie Scholl, qui est une figure très émouvante. Et ce qui nous a convaincus et ce qui s'est imposé comme une évidence parmi les trois livres...
Cette Sophie Scholl, c'était une résistante allemande, il faut dire, qui était toute jeune, elle avait une vingtaine d'années.
Elle avait à peine 21 ans. Elle faisait partie du groupe de résistance La Rose Blanche, qui était formé par des étudiants anti-nazis. C'est un groupe qui avait été fondé par son frère, Hans, qui sera exécuté juste après elle. Donc Sophie était une très jeune femme étudiante qui a découvert les activités de son frère. La Rose Blanche avait été fondée au printemps 1942 et elle s'en est aperçue à l'automne. Et en fait, ils ont été arrêtés tous en février, le 22 février, le 18, pardon, 18 février. Le procès, le verdict a été rendu le 22 et ils ont été exécutés quelques heures après.
Eh oui, c'est...
Voilà, guillotinés.
Ça fait partie des exemples que l'on peut donner justement à la jeunesse. Et l'auteur, Jean-Claude Morleva, est allé vraiment faire un travail très très pointu. L'ouvrage est publié chez Actes Sud Junior dans cette collection « Ceux qui ont dit non ». Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces deux prix Historia, celui du livre jeunesse et celui de l'exposition. Nous aurons comme ça pendant toute la semaine l'occasion de voir quels ont été les travaux historiques primés par Historia pendant l'année passée. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck, nous allons parler de la fessée comme méthode éducative ou pas.
Allons
vous
bon.
Êtes pour, vous êtes contre, on en parle, est-ce condamnable aussi, avec les experts européens, Franck.
Mais vous parlez de la vraie fessée, bien entendu.
Oui, pas de celle dont on parlait tout à l'heure.
Bon, d'accord, merci beaucoup Elena. Nous nous retrouvons demain, Céline.
À demain, Franck.